Radio JV présente. Chaque lundi dès 21h, Inks et ses complices débarquent pour vous parler jeux vidéo. Dossier, interview, chronique, rétrospective, quiz. Durant une heure, tout est possible. Accrochez-vous, le Player Club est ouvert.
Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Player Club, premier numéro de cette nouvelle émission Radio JV, avec moi, mes complices, Alex le serveur, bonsoir.
Bonsoir.
Alors tu écris pour Game Cult, tu as cofondé Radio Kawa et ce soir tu vas bien?
Je vais très très bien, je vais m'inscrire à Slam, donc je vais bien.
Exactement, on a tweeté il y a quelques instants, n'hésitez pas à suivre at le Player Club pour avoir toutes les infos sur l'émission et à tweeter hashtag le Player Club, on va voir vos réactions pendant l'émission évidemment. Avec moi aussi dans le studio, il y a mon ami Concombre.
Bonsoir, oh là là, presque même déjà 3 ans d'intervention ponctuelle sur Radio 01, qui oui. Du coup a changé de nom, c'est comme l'UMP alors, c'est incroyable.
C'est Radio JV, c'est fantastique, c'est l'émission principale de Radio JV que vous entendez là, qui suit, bah voilà, que l'on dit que Mokrok, Respawn, Boudoir Gambetta, qui se sont arrêtés l'été dernier. Nouvelle émission d'une heure, chaque lundi, que vous retrouvez donc avant Passostic en direct sur l'antenne de Synops Live, puis en téléchargement et podcast sur radiojv.com.
C'est incroyable. Bravo,
puisque
bravo.
Oui, on a lancé ce nouveau site, c'est fantastique.
Il est beau.
Oui, il est beau, il est merveilleux, il est fantastique.
Voilà, donc maintenant je vous ai donné l'opportunité de vous tripoter un petit peu les tétons en live. J'espère que vous avez bien profité. Maintenant on sera méchant.
On va quand même remercier pour Radio JV Gotos, Léo, Fox et Stan aussi qui nous a aidé pour publier le site, le design, tout le truc. Enfin, on a tous bossé ensemble, c'était merveilleux. Et merci à Mago, à Speak et Damien pour le fantastique jingle du Player Club que vous venez d'entendre et que vous entendrez désormais chaque lundi soir à 21h. On va faire un petit sommaire de l'émission hein, quand même, parce qu'on découvre un peu qu'est-ce que c'est le Player Club. Eh bien, le Player Club, c'est le rappel des titres. Ça dure 3-4 minutes et on revient un peu sur la quintessence de l'actualité jeux vidéo très rapidement parce qu'il y a PLS après, donc on va quand même pas s'étendre dessus trop longtemps. Ensuite, une chronique, et c'est notre ami Thomas Zorus, alias Nathan de Bagropoint et de Game Cult, qui nous parlera des bouquins The Witcher. Et enfin, c'est le gros morceau, c'est le plat de résistance de l'émission, la rubrique qui, ce soir, est consacrée à The Walking Dead saison 2. Et après. Mais d'abord, donc, comme le veut la formule, on va commencer par le rappel des titres. Et dans l'actualité cette semaine, eh ben, on n'a pas pu passer à côté, hein. C'est toujours un peu craignos de faire quelque chose sur les chiffres, mais quand même, Super Smash Bros 3DS, c'est le succès. 1 million en 2 jours, et pas l'inverse. Au Japon, le jeu est donc sorti, du côté nippon de l'univers. Et, ben, on peut dire, franchement, il se vend, très très bien. On voit aussi, d'ailleurs, en parenthèse, que la publicité, les campagnes de pub et pré-réservation ont commencé en Europe et aux États-Unis depuis un sacré moment, depuis septembre, c'est ça, ALS?
Je crois même un tout petit peu avant. Enfin, moi, je me souviens que j'avais reçu les pubs très 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 tôt. Mmh. Donc, ça fait quasiment plus d'un mois avant la sortie du jeu pour une campagne de pub. C'est rarement vu, je crois, dans le jeu vidéo. Enfin, moi, ça m'a vraiment bluffé quand j'ai vu la première pub.
Tout à fait. Et la question que j'ai envie de te poser, pour le coup, c'est est-ce que tu penses que ce succès qui est en ce moment de se passer au Japon, est-ce qu'il peut être répété ici, chez nous, en Europe, ou même aux États-Unis? Est-ce que tu penses que la licence est aussi forte là-bas? Parce que finalement, voilà, ils balancent beaucoup de pubs, ils misent beaucoup quand même, c'est un des grands jeux 3DS pour la rentrée, mais en même temps, c'est Smash Bros. C'est peut-être difficile un peu de marketer ça par chez nous, c'est quelque chose d'assez technique, c'est quelque chose qui parle finalement aux joueurs en général, non?
Ouais, mais alors en même temps, ça reprend vraiment des grosses licences de Nintendo. Il n'y a pas grand-chose qui se passe sur 3DS en ce moment, ni d'ailleurs sur Wii U. Mmh. Et sincèrement, enfin, j'ai vu autour de moi, rien que la démo, ça vraiment, il y a eu un engouement incroyable autour du jeu pour la démo.
Oh, l'effet de rareté aussi, l'effet Google Buzz, j'ai envie de
te
dire.
Tout le monde voulait le code pour avoir la démo. Maintenant qu'elle est disponible depuis 3 jours, depuis tout le monde, on entend un peu moins parler. Est-ce qu'ils feront aussi bien, aussi vite? Je ne pense pas, parce que ça reste quand même un phénomène assez localisé au Japon, mais je pense sincèrement que le jeu va très très bien marcher, et je pense que c'est même très bien pensé de la part de Nintendo de le faire sortir sur 3DS avant l'épisode sur Wii U, parce que moi, comme beaucoup de personnes, on attend vraiment l'épisode Wii U, à tel point qu'en attendant, on va se faire un petit apéro sur l'épisode 3DS. Je pense que la plupart des gens sont dans cette optique-là, et que du coup, en mettant la version 3DS disponible 2 mois avant, ils vont essayer de faire un petit hold-up.
D'accord, très bien. On va avancer très très vite dans le reste de l'actu. D'intéressant quand même, c'est du côté Kickstarter. Les conditions ont été changées puisque désormais, c'est beaucoup plus précis ce que les créateurs et les personnes qui créent un Kickstarter doivent aux personnes qui fondent, mon Dieu, j'essaie d'utiliser un terme anglais, qui donnent de l'argent au Kickstarter, qui le financent. Et notamment a été ajoutée l'éventualité dans les termes et conditions de Kickstarter, la possibilité de passer par la justice si jamais les personnes qui ont donné de l'argent ne se sentaient pas satisfaites et que ça ne correspondait pas, ce qui est livré ne correspond pas finalement à ce qui a été annoncé et ce pourquoi ils ont payé. Donc on remarque que Kickstarter, plusieurs mois après certaines polémiques, mais en tout cas Kickstarter avance sur la question. Un autre point intéressant, c'est l'ESRB, l'équivalent de la PEGI, donc l'organisme qui s'occupe de quantifier, de donner des âges minimum conseiller sur les jeux vidéo, qui fête ses 20 ans donc aux États-Unis, le SRB, et qui a annoncé que aujourd'hui plus de 87% des magasins se réfèrent à l'ESRB et ne vendent les titres qui sont justement limités à certains âges que aux personnes qui correspondent bien à ça. Alors ça paraît un peu bizarre pour nous en Europe. Concombre, toi ça t'a étonné de voir,
c'est difficile de croire un chiffre pareil quand même, qui est quand même gigantesque. C'est pas une pratique du tout qu'on a en France ni même en Europe, hein, c'est pas ancré dans nos esprits, donc empiriquement c'est difficile à croire, mais si Gamasutra le dit alors tout va bien.
Écoute, on va espérer. Gamasutra et surtout l'ESRB, hein, l'ESRB qui l'a passé simplement par un communiqué de presse, c'était peut-être simplement pour se faire mousser, mais en tout cas ce chiffre de 87% qui dépasse même les taux de vérification qu'il y a pour d'autres biens culturels comme le cinéma, les séries télé, la musique ou les bouquins, ça paraît quand même effectivement impressionnant. Et pour rester dans les limites d'âge, une dernière news qui vous parle de Left 4 Dead 2. Alors, on peut encore parler de Left 4 Dead 2 en 2014, je vous assure, puisque le jeu est maintenant disponible en version non censurée en Australie. Si vous disposez du jeu et que vous l'avez acheté via le store australien, sachez qu'il y a un téléchargement gratuit qui vous permet de télécharger tous les petits effets un peu gore qui avaient été retirés lors de la publication du jeu sur cette région-là. Donc ça paraît toujours un peu absurde comme ça d'avoir des limitations, surtout sur un store en téléchargement où normalement on est censé être sur l'internet et sur le monde et il n'y a pas de limite, c'est la mondialisation, mon Dieu. Mais voilà, c'est très étonnant de voir ça arriver. Pour le coup, ils se sont un peu arrangés avec les instances, ils ont pu prouver leur bonne foi que le jeu avait été vraiment étudié pour être du 18+ et du 18+ légal. Donc finalement pour Left 4 Dead 2, tout finit bien dans
tant
des
mieux,
bonnes
parce que
de
c'est
sang.
Un bon jeu, c'est oui, un très bon oui. jeu Left 4 Dead 2. Donc si vous n'avez pas encore craqué pour ce jeu, foncez.
Oui, il est souvent en réduction
ami australien.
Voilà, ami australien, si tu nous écoutes, et je suis sûr que tu nous écoutes évidemment, en tout cas en podcast, parce que pour les heures, ça doit peut-être être un peu difficile. Voilà, donc on va maintenant rejoindre notre ami Thomas Zerus dans une contrée très très lointaine. Je vous laisse découvrir ça.
Bonjour à toi public, comment vas-tu ? Oh pardon, excuse-moi, je la refais. Vuitage public snick mosna jack semas. As-tu reconnu cette langue délicieusement difficile à prononcer et que j'écorche de ma vilaine voix? Raté, ce n'est pas l'allemand, terreur de tes années collège, c'était du polonais. Car aujourd'hui, nous partons à l'Est découvrir des jeux Non, on déconne, on va parler de livres. Peut-être ne le sais-tu pas, cher lecteur, mais la série de jeux vidéo The Witcher est à la base issue d'une série de romans polonais écrite par Andrzej Sapkowski. Né en 1948, il fut un temps représentant des ventes avant de se lancer dans l'écriture en 1986 avec sa première nouvelle intitulée Wiedźmin, que l'on peut traduire par sorceleur. Cette série restera son principal sujet d'écriture jusqu'en 1999, date de la fin de la série avec le roman La Dame du Lac. Wiedźmin a connu un énorme succès en Pologne et Sapkowski y est souvent considéré comme le Tolkien polonais. Alors, cette allégation est globalement exagérée, mais il n'en reste pas moins que la saga du sorceleur est quand même d'une grande qualité. La saga du sorceleur est composée de deux recueils de nouvelles, suivis de cinq romans se faisant suite. On pourrait croire que les nouvelles servent à mettre en place l'univers dans lequel évolue le sorceleur Geralt, mais ce ne serait qu'en fait que partiellement vrai. Car contrairement à Tolkien qui nous fait la genèse de son monde dans le livre Le Silmarillion, Sapkowski se sert des nouvelles pour nous aider à comprendre un monde aux problématiques plus sociales que mythologiques. Sorte de mutant chasseur de monstres aux aptitudes modifiées dès l'enfance par des élixirs, Geralt est un être à part même dans la société qui l'entoure. Le monde médiéval inspiré des légendes slaves dans lequel la saga du sorceleur se déroule est vraiment brutal, il est également misogyne, il est rongé par la guerre, la bêtise, la crasse, l'ignorance, et les quelques races anciennes disparaissent comme on oublie les minorités. Les conflits sociaux entre humains, elfes, nains et dryades sont un point central du récit, et les quelques êtres hors normes, que sont Geralt ou les magiciens et magiciennes que l'on rencontre dans les livres, ne sont que des créations vraiment artificielles, qui sont retorses, cyniques, guidées par leur propre morale et leurs propres intérêts, qu'ils cachent sous couvert d'avoir une sorte de code. L'ambiguïté morale est probablement ce qui fait l'intérêt des deux premiers volumes. On y découvre Geralt, certes, mais on y découvre surtout sa manière de penser. Geralt combat le mal, mais qu'est-ce que le mal ? Existe-t-il un mal plus excusable qu'un autre ? C'est là que repose tout l'intérêt de la série et la raison pour laquelle elle se prête si bien au jeu de rôle. Geralt ne croit pas en l'existence du moindre mal. La dimension du mal, selon lui, n'est qu'une convention à choisir entre deux mots selon notre propre morale. Geralt préfère ne pas choisir, même si ce non-choix crée un résultat a posteriori plus grave que mettre de l'eau dans son vin. Les 5 romans qui suivent les nouvelles dans lesquelles nous sont présentés Geralt sont un peu plus convenus, mais ils dénotent par une ambiance de plus en plus délétère et sombre. Ils permettent la mise en place d'une grande quantité de protagonistes importants, multipliant les points de vue, mais également les intrigues. On conseillera d'ailleurs la lecture des romans à tous ceux qui sont intéressés par The Witcher 3, tant le titre semble être intimement lié à la série de romans. Et les jeux alors, est-ce qu'ils respectent les livres ? Clairement, oui, les jeux respectent les livres. Ils respectent l'ambiguïté du monde dans lequel évolue Geralt. Les personnages principaux y sont présents, il n'y a aucune grosse erreur de commise. Mais il y a cependant quelque chose d'un peu étrange. On aurait pu penser, avec les deux premiers titres, The Witcher 1 et The Witcher 2, que les jeux étaient une forme de relecture, de monde parallèle à celui des romans. Mais avec le troisième épisode, son scénario qui fait vraiment suite au roman, avec le retour d'un personnage extrêmement important, voire même le personnage central des romans, les jeux semblent vouloir se raccorder au scénario global, bien qu'ils en aient bousculé certains arcs en faisant revenir ou en tuant certains personnages. On terminera d'ailleurs en précisant que la traduction française est de fort bonne qualité et que les romans sont édités chez nous par Bragelonne en grand format trop cher mais avec des belles couvertures ou alors par Milady en poche, beaucoup moins cher mais aux couvertures fort hideuses. On laissera donc à chacun le choix de claquer son pelle ou d'en lédire sa bibliothèque. En vous souhaitant Warto Pressextac, je vous dis à la prochaine!
De 21h à 22h, le Player Club.
Et voilà, c'était la chronique de Thomas Zorus, vous le retrouvez sur Twitter, twitter.com/Thomas Zorus, il écrit sur Gamekult et aussi sur le Twitter de Bagropoint, le site pour l'instant tergiverse un peu, bagropoint.fr, mais ça va revenir je pense peut-être, hein, d'ici les prochains jours, les prochains mois, les prochaines semaines, je ne sais pas, demandez-lui. En tout cas, quand même un petit tour de présentation de nouveau, je suis toujours avec Alex le serveur et avec notre ami Concombre qu'on entend dans LOL Japon une fois par mois sur Radio Kawa.
Absolument, c'est le premier vendredi du mois, le prochain ce sera le 3 et même celui d'après ce sera le 31, voilà, c'est comme ça, c'est le planning.
Et donc nous sommes toujours en direct dans le Player Club jusqu'à 22h, vous réagissez sur Twitter, des messages très accueillants, The Cat qui nous dit « Ah bah le ALS, il a une voix toute mimi !» et Thibaut Lagarde qui nous dit « Tranquille petite bière, la main quelque part, ça commence le Player Club, bon courage !» Eh bien merci Thibaut, continuez de réagir au hashtag le Player Club et surtout maintenant, vu qu'on va attaquer le sujet Walking Dead, donnez-nous vos impressions, qu'est-ce que vous avez pensé de la saison 2 de The Walking Dead, parce que c'est ce qu'on évoque tout de suite dans la rubrique. Donc voilà, la saison 2 s'est terminée tout récemment, la saison 1 était un succès critique immense, on peut le dire, hein, un nombre d'awards, un nombre de jeux de l'année assez impressionnant, qui a même provoqué une sortie en boîte, ce qui est pas si commun que ça pour un jeu Telltale. Donc on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas tout à fait que The Walking Dead, c'est donc cette série de point and click parfois, mais surtout cet univers post-apocalyptique,
fiction interactive
dans lequel on choisit dans quel ordre les gens meurent, pour faire simple. En tout cas, ça parlera à ceux qui y ont déjà joué, mais voilà, c'est surtout beaucoup de dialogues, beaucoup de choix dans les dialogues et un peu de point and click de temps en temps. The Walking Dead saison 1 était un immense succès critique. Est-ce que pour vous il était justifié? Alex le serveur, t'as testé le jeu pour Gamekult, les différents épisodes, aujourd'hui après avoir joué à la saison 2, tu maintiens?
Alors j'ai testé les trois premiers épisodes,
les trois premiers
pour GK. Je maintiens que la saison 1 est très très bien. La saison 2 est intéressante. Alors le problème avec ces jeux, c'est non mais en fait c'est qu'une fois que t'as fait Walking Dead première saison, que t'as fait A Wolf Among Us, que tu que tu tapes la saison 2 de Walking Dead, il va y avoir quoi encore, je sais plus ce qu'ils avaient annoncé, Borderlands et puis encore saison 3 de Walking Dead
et puis Game of Thrones.
Et Game of Thrones, tu connais les ressorts, tu connais comment ça fonctionne, tu sais comment ça fonctionne, tu sais que c'est un petit peu dirigiste. Disons, ce qui a très très bien marché dans la première saison, c'est le fait que tu ne savais pas du tout ce qui se passait autour de toi, en quelque sorte. Tu savais pas trop qu'en fait, enfin, c'était l'illusion en fait. L'illusion fonctionnait très très bien. Une fois que tu sais que les choix sont illusoires et que les impacts et que l'impact, enfin les conséquences sur le déroulement de l'histoire sont relativement peu importantes, t'es un petit peu déçu forcément. Malgré tout, en termes de... Alors, attention, je vais dire des gros mots. Je sais, en général, je ne les emploie pas. Mais en termes d'émotion...
Oui.
Et au moins de narration, en tout cas, pour employer un terme plus technique...
Je sais pas
et...
si c'est le bon mot. Hein. Tu parles peut-être d'empathie, mais on y reviendra.
Bah, l'empathie fait partie... Enfin, tu ressens des émotions quand même.
L'empathie est une émotion.
Tu joues.
Certes, mais c'est pas là. La réciproque n'est pas vraie, enfin. D'accord. Je pinaille.
On y reviendra après.
La
en tout
réciproque
cas.
N'est pas... Ouais. Enfin, bref. En tout cas, en termes de narration, c'est vraiment un jeu extrêmement intéressant et tu le vis d'une façon assez particulière en fait, puisque tu dois faire des choix très très rapidement. Et moi, c'est cette façon-là, c'est cette façon d'être vraiment dos au mur qui m'a vraiment intéressé dans le jeu. Donc je maintiens que c'est un jeu intéressant du point de vue de la narration. Après, effectivement, en termes de gameplay, voilà, ça reste assez basique. J'imagine qu'on va en ressasser, notamment les différences entre première saison et deuxième saison.
Oui.
Mais voilà, c'est vrai que le gameplay, c'est un petit peu en deçà. Ça, c'est sûr que côté gameplay, c'est, j'allais dire presque un gros mot. Alors, je le mets avec des guillemets. J'ai entendu plein de gens dire, moi-même, je dis que la question peut se poser. Est-ce que c'est vraiment un jeu vidéo? Voilà, attention, je l'ai dit. Voilà, volé de bois vert, mais et on peut se poser la question en tout cas.
Pour la saison 2, je pense qu'on peut carrément se poser la question. On va y revenir, juste un petit peu de background quand même, histoire qu'on comprenne bien. Toi, est-ce que t'étais avant d'avoir joué à Walking Dead, déjà fan de la série? Est-ce que tu lisais les comics? Est-ce que t'avais, par rapport à l'univers Walking Dead et même en général par rapport aux univers survivalistes dans un monde zombifié, est-ce que tu étais déjà adepte de ça? Est-ce que en gros les ressorts qui sont utilisés dans Walking Dead, est-ce que tu y étais déjà habitué?
Alors, pour le petit point biographique, autobiographique, il faut savoir que j'ai fait donc mon mémoire de master en lettres sur la littérature post-apocalyptique, notamment.
Ah oui.
Des années 50 aux années 70.
Donc tu connais bien les lieux communs du genre.
Je connais extrêmement bien le genre, j'adore le genre, c'est vraiment un genre qui me passionne. J'aime beaucoup aussi les zombies en général, les trucs d'horreur, tout ça, donc les films 28 heures, 28 jours, Rec, tout ça. Je suis très très fan. Après, le comics lui-même m'a beaucoup intéressé avant que je lise, parce que j'ai eu des petits problèmes en le lisant. Je trouvais que les gras étaient, alors c'est très con à dire, hein, mais je trouvais que les gras étaient très mal utilisés dans le phrasé, donc j'avais des problèmes à la lecture. Si tu veux, pour moi, le gras, c'est un haussement de ton. Et donc dès que je le lisais, j'ai fait, mais putain, on peut pas faire d'intonation sur ce mot-là, c'est pas logique. Donc j'ai abandonné très vite, bizarrement. Et la série, j'ai suivi les premières saisons, j'aimais assez. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment l'environnement urbain, surtout dans les zombies. Enfin, pareil, en post-apocalyptique, la ville est très très importante en littérature post-apo. Et je trouvais que dès qu'on s'éloignait un petit peu de la ville dans la série, c'était beaucoup moins intéressant. Là, idem d'ailleurs pour la série. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était ce côté ville-rencontre avec les autres personnes. Tu vois, dès qu'il y a de l'interaction avec les gens, c'est vachement intéressant. Donc, c'est vraiment un milieu que je connais beaucoup.
Ouais.
Et donc, le jeu, je l'ai fait vraiment avec un énorme appétit pour les zombies.
Certainement pas, en tout cas, t'accuser d'avoir découvert ce genre d'univers-là avec Walking Dead et du coup d'être, d'apprécier ça simplement parce que tu n'avais pas eu d'autres, vu, joué, lu d'autres œuvres qui mettent dans le même genre de situation. Concombre, de ton côté, Walking Dead saison 1, immense succès critique, c'était justifié?
Alors, confronter les deux est pas simple pour des raisons qui le sont très simples, parce que The Walking Dead 1 était un succès, avait une réception critique commerciale bonne, donc on louait les qualités, pas forcément narratives parce que c'est un peu impropre, mais les qualités d'écriture, les personnages, effectivement, on s'identifiait beaucoup, chaque choix paraissait une épreuve, tout ça, et effectivement j'ai trouvé ça très 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 bon, tout simplement parce que ça m'a impliqué émotionnellement, j'ai été ému. Mais il est vrai que quand on y revient, je me souviens que vous l'avez exclu d'un top des Respawn Awards, parce que je crois que c'est Pipo qui disait oh, c'est pas un vrai jeu, c'est la fiction interactive, etc. Et effectivement, tu peux trouver des let's play sur YouTube où t'as Lee qui dit rien, tu vois, personne n'appuie sur des boutons, et du coup t'as un mute Lee, t'as un Lee muet qui ne fait pas grand chose. Dans la saison 1, au moins, tu as des choix effectivement qui sont maquillés, parce que voilà, c'est le genre qui veut ça, mais tu as des, on va dire pas des puzzles ou des mini puzzles, mais on va dire t'as des petits choix. Quand tu prends un objet, tu l'utiliseras quelque part. La saison 2 a un énorme défaut, c'est qu'elle elle n'intègre pratiquement plus de gameplay. C'est-à-dire, tu te déplaces, tu parles aux gens, et c'est le maximum de gameplay que tu vas avoir. Tu réponds à des trucs, et c'est tout. Donc, elle s'appuie juste sur un effet de connexion entre les deux premières saisons, qu'on va pas spoiler, parce que je sais que tout le monde n'a pas fini tout ça, mais on va rester très fin dans le spoiler ce soir. Mais même si, encore une fois, la sauce prend, on peut dire ça, et ça reste passionnant à faire parce qu'il y a des petits cliffhangers et tout, mais quand tu reviens sur le truc, quand tu lis sur TV Tropes quel choix tu peux avoir, etc., tu te rends compte que c'est moins maquillé, et donc c'est un effet qui à terme qui marchera de moins en moins, hein. Donc il va falloir s'arrêter vite fait, parce que c'est encore bon, mais ça ne le sera pas éternellement, et ça s'arrêtera très vite, j'en ai peur.
Donc pour toi, la qualité de la saison 2 s'est faite sur ce que tu avais apprécié dans la saison 1 et le fait que les personnages continuent d'avoir une histoire, finalement. C'était le prolongement.
Rappelons que la team derrière n'est pas tout à fait la même, et absolument c'était la fin de la saison 1 suffisait à elle-même, hein. On reviendra sur le genre du zombie qui est un peu toujours le même, surtout dans sa finalité. Mais effectivement, avoir un prolongement, c'est bien, mais avoir un prolongement sans aucune connexion, c'est pas terrible, parce que dès le premier épisode, dès les 5 premières minutes, il y a une espèce de bouton reset qui est appuyé, et il n'y a strictement aucun lien avec... Enfin, il n'y en a pas aucun, mais par exemple, l'épisode 400 jours.
Oui.
400 days.
Le DLC, hein, on précise.
Voilà. Le lien est très faible. Il y a un perso qui effectivement intègre le cast. Il y en a un autre qui est vaguement référencé, et les trois autres, alors aucune idée. Alors après, je sais pas si.
En fait, selon les personnes que tu choisis, enfin selon ce qui se passe dans 400 jours, tu peux en voir certains dans le troisième épisode, pardon. Tu peux en voir certains dans le fond, en train de discuter.
Donc, exactement, le DLC décide de quels figurants sont dans quel épisode.
C'est ridicule.
Donc, c'est terrible. Donc encore une fois, ça trahit vraiment l'aspect cosmétique du choix. Hein. Donc ça se voit de plus en plus, et c'est dommage. Mais ça, dans la saison 2, pour répondre à ta question, enfin, oui, ça marchait encore, je trouve.
Ça marchait encore pour toi. Tu voulais réagir tout à l'heure, Alex le serveur, par rapport à ce
que tu disais pour moi. Alors en fait, quand Concombre blâmait justement le manque de gameplay de la saison 2, je trouve que c'est la fin d'une hypocrisie, en fait, parce que clairement, ce gameplay de simili point and click, qui était vraiment pas très intéressant, fallait vraiment juste amener un objet et des petites interactions.
Zéro en énigme.
Voilà, réflexion zéro. Donc
un peu comme Elle est noire.
Se débarrasser de ça, c'était pas forcément négatif, franchement, parce que et encore, pour le coup, Elle est noire, tu devais vraiment faire fouiller un petit peu, tu vois. Enfin, t'avais un petit côté enquête qui était assez intéressant. Là, c'était vraiment presque rébarbatif. Par contre, ce que je retiens beaucoup sur la saison 2, c'est que après la sortie du premier épisode, les développeurs avaient dit « Oui, le combat de Clémentine sera très très différent comparé à celui de Lee. Ce sera beaucoup plus dans la furtivité, dans interagir avec l'environnement. » Alors qu'au final...
Avec l'environnement,
oui,
que dalle.
Voilà, c'est ça. C'est que j'ai retrouvé une interview où il disait ça. Mais tu rigoles, c'est encore plus violent que le premier. La meuf, c'est Rambo, quoi. Et donc, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, parce que pour le coup, oui, ça aurait été peut-être plus intéressant d'avoir quelque chose de peut-être plus furtif, plus angoissant que du FPS en vue de troisième personne et comme ça, quoi.
C'est ça qui est très intéressant. Je vais raconter mon vécu pour le coup, mais j'ai vraiment l'impression sur cette saison 2 que les créateurs ont dû, les développeurs et les scénaristes ont dû reprendre le statu quo de la fin de la saison 1, qui est donc un changement de protagoniste, et toute la saison 2, c'est la saison de je dois assumer les choix qui ont été faits avant moi et même les choix que je fais dans les premiers épisodes de cette saison 2 pour ensuite essayer de poursuivre les choses correctement, ce qui fait que au final de réellement intéressant et de complètement engageant ne sont que les deux derniers épisodes qui posent des dilemmes vraiment intéressants et vraiment inédits. Le reste il y a des petits effets un peu sympas, évidemment le côté heureux de redécouvrir certains personnages ou de découvrir certains lieux.
Ça, je sais pas si c'était vraiment bienvenu ou bien amené ou ça n'est justifié nulle part. Ce oui. petit plot twist que de l'épisode 2 que les fans reconnaîtront.
Voilà.
Deus ex machina
bizarre,
complètement.
Hein.
Quasiment, disons que, mais encore une fois, ce Deus ex machina là, les gens le repéreront assez facilement. Il était fortement, pas fortement annoncé, mais disons qu'il était assez clairement annoncé à la fois aux joueurs et en même temps à la prochaine équipe qui allait s'occuper du développement de la saison 2. Et c'est fait sans trop de finesse, quoi. Tu t'attendais à ça? Ben voilà ça!
Toute façon, il est nécessaire en termes de caractérisation, donc de scénario, donc c'est super important. Mmh. Et on parle en crypté, mais je sais pas si on doit se retenir parce que plusieurs trucs beaucoup de com autour de The Walking Dead spoilent ce
Bien sûr, on va quand même essayer de rester sur le nom des personnages assez soft pour le coup, histoire de pas non plus gâcher complètement le truc. N'importe qui peut rejoindre en direct ou même en téléchargement en podcast, glisser une oreille si c'est sur des haut-parleurs. Ce serait quand même un peu dommage
un
de vous gâcher
twist,
le truc.
Parce que pour le coup, personnage important pour le suite de la saison.
Pour le coup, limite, quel personnage fait quoi dans quelle situation, c'est limite une des choses les plus intéressantes qu'il y a eu dans cette saison 2. Je me suis quand même trouvé dans la situation, donc il y a moins de phases de point and click d'exploration alors qu'elles étaient déjà
pas du tout.
Il n'y en aura pas du tout dans certains épisodes, c'est vraiment limite la ligne droite à simplement sélectionner du dialogue et même du coup des dialogues qui deviennent des choix physiques. Tu peux commencer à choisir à tirer sur des gens en choisissant une option de dialogue, ça devient un peu bizarre tout ça. Mais bref, j'en étais à un tel point que j'ai un moment j'étais allongé, j'appuyais j'étais allongé sur ma chaise, j'appuyais sur mon pad, j'en étais à espérer qui sortait une version de série télé. Et enfin voilà, tu as parlé tout à l'heure du let's play avec qui tourne tout seul et ouais. de Lee qui est muet. On n'est pas loin de ça. On n'est clairement pas loin de ça pour la saison 2. J'espérais clairement ça parce que l'interaction était finalement assez faible. Effectivement, j'aime bien avoir la possibilité de choisir un peu ce que je veux en tant que personnage et avoir une influence sur le scénario. Même si ça n'a pas une grande influence, en tout cas que ça a une influence dans ma tête, que je me suis dit j'ai tenté de faire quelque chose, ça construit quand même mon personnage de faire ça. Mais une partie de moi espère simplement que les personnages en eux-mêmes soient confiés à de meilleurs auteurs et soient transférés dans une série télé.
Alors que tu peux te comporter n'importe comment, tu peux avoir un comportement complètement schizophrène. Mmh. Toute la saison 2 est un peu tu contrôles Clémentine et tu as deux références globales en termes de personnages. T'as un mec gentil voilà qui remplace un peu qui prend un peu le rôle parallèle de Kenny de la saison 1 qui est un autre mec qui s'appelle Luke et t'as une autre gamine qui se balade avec toi. Tu peux soit être une vraie connasse avec elle, soit être gentil. Et c'est un peu les deux seules interactions importantes en filigrane de la saison, pour rebondir à l'attachement que tu décrivais.
Et pour le coup, voilà, c'est vraiment... je suis encore attaché à l'univers et je suis encore attaché au personnage parce que la première saison, à mon avis, ça a joué sur moi. Le fait que ces univers-là, j'étais pas trop trempé, a fait que j'ai beaucoup apprécié parce qu'en fait, j'apprécie l'idée de se dire « Mon Dieu, on n'est plus que les derniers survivants, il va falloir faire des choix terribles, il va falloir faire des choix de vie ou de mort. » Je me suis découvert un intérêt pour ça et j'ai envie de lire les comics, pour le coup. Mais oui, enfin, du coup, quand on y réfléchit bien, les personnages sont pas, à mon avis, si bien développer que ça aujourd'hui dans la saison 2, il y a beaucoup de surplace quoi.
Ah, est-ce que tu arrives à cerner ce qui différencie justement les comics et les séries du jeu vidéo en deux saisons pour le moment?
C'est un peu difficile parce que les comics j'en ai lu assez peu, mais pour le coup,
c'est simple, c'est la réponse dans la question, c'est l'effet de sérialité. Même s'il y a des mécanismes entre les trois saisons pour le moment de la série, fatalement il faut faire tenir les comics et les séries. Et c'est pour ça que la série parfois plonge dans d'autres genres, parfois ça va un petit peu dans le sci-fi, c'est vraiment très bizarre. C'est ce qui est un peu ruine. La série The Walking Dead, en tout cas à ses débuts, il paraît que la saison 3 et 4 est un peu mieux, mais c'est un écueil dans lequel il faut pas tomber. Le changement de genre interruptif, je sais plus, tourette, je trouve pas ce mot, mais bref, ne pas changer de genre.
Interruptif, c'est bizarre, je ne suis pas sûr que ça existe, attention le point
ça,
à gueule
ça,
arrive.
Ça sonne comme ceci, mais je ne sais plus ce que c'est.
On a deux...
Intempestif peut-être, voilà.
on a deux, trois réactions, évidemment, un peu partout sur Twitter. Je vais prendre celle de notre ami The Fighting Doll qui nous dit « L'investissement émotionnel reste bon, mais trop de persos morts dans cette saison 2 fait qu'il y a une perte du choc. »
Tout à fait.
Donc au
tout
final, on s'attache plus à grand chose et on se dit bon, celui-là il meurt quand.
Bah surtout c'est que tu as un mauvais rythme en plus dans la deuxième saison, c'est-à-dire que les personnages véritablement intéressants et travaillés arrivent un poil trop tard. Certains, on s'en débarrasse beaucoup trop vite avant même que t'aies développé la. Et t'en as, tu te dis bon, il va se passer quelque chose avec, puis finalement non, et ils sont évacués. c'est, je pense qu'on pense tous au même personnage qui est vraiment évacué un petit peu comme. Enfin voilà. Tu te disais, il y avait vraiment des matériaux pour faire quelque chose, et puis finalement, on part sur autre chose. Alors oui, pour l'effet de surprise, c'est intéressant, parce que tu sais pas trop où ça va, mais ça a l'air tellement artificiel en termes narratifs, ça n'a aucun intérêt. Et puis en termes de rythme, j'en parle même pas, le découpage de la saison 2 est catastrophique comparé à la saison 1, qui avait à chaque fois une unité de thème traité, et presque de lieu. Là, la saison 2, les deux premiers épisodes sont carrément des épisodes transitoires, donc le premier épisode de la saison 2, c'est vraiment, voilà, on a une situation de départ, je veux qu'on arrive à cette situation de fin, et il va se passer ça. L'épisode 2, c'est encore pire, pour un deuxième épisode, c'est un petit peu compliqué, ça devient véritablement intéressant qu'à partir de l'épisode 3, ce qui est un petit peu problématique. Le 3 est vraiment très très bon, le 4... je le trouve un petit peu en deçà.
Et souvenez-vous, dans la première saison, le nombre de lieux qu'il y avait rien que dans le premier épisode. On visitait énormément de choses. On visitait une ferme, on visitait une pharmacie, on allait repêcher Clémentine, on était dans la voiture. Et dans la saison 2, il y a aussi ce côté un peu de tirer les choses en longueur. Et alors, pour le coup, les gens ont apprécié le côté un peu de l'attachement au personnage. Ils ont essayé de le transformer en scène, mais malheureusement, ça marche pas. Ils essaient de faire un peu moins de scènes, de faire un peu plus long plan séquence, entre gros guillemets. Mais voilà, c'est là pour le coup, la sauce a peine à prendre vraiment en termes qualitatifs. Cocon, tu voulais réagir?
Au contraire, j'ai trouvé les épisodes de la saison 2 plutôt raccourcis. Tu as teigné les 2h30, 3h dans la première saison, et parfois ça allait dans une heure de moins. Mais
allongé au niveau des scènes, en fait, les différentes scènes prennent plus de place dans l'épisode. J'ai vraiment eu l'impression.
ALS parlait de la mort dans The Walking Dead, qui est évidemment un concept fondamental et qui n'est plus vraiment un plot twist parce que c'est plus une question de qui, c'est vraiment dans quel ordre.
Dans les univers zombies, c'est quand même.
Et dans les univers zombies, c'est une. Alors, je suis désolé de vous spoiler tous les genres du truc zombie du monde, que ce soit Dead Set, La Nuit des Morts Vivants, etc. Ça ne se termine jamais bien. C'est-à-dire, tout le monde meurt. Hein, c'est une constante. Je suis désolé de vous l'apprendre. Il faut rentrer dans la dure réalité de du genre. Mais personne ne survit. Hein, ça ne se termine pas. Ça ne se termine pas dans la joie et la bonne humeur, etc. Donc, ce n'est pas vraiment un spoiler en soi, malheureusement. C'est juste dans quel ordre. Effectivement, il y a des gens, ils se reçoivent un hélicoptère sur la gueule, sorti de nulle part, parce qu'il fallait les évacuer, quoi. Et c'est pas bien fait, c'est pas bien amené, c'est terrible.
Mais même ça peut devenir lassant. Enfin, tu te dis juste, voilà, bon, ça va être quand le prochain. Enfin,
le dernier épisode, ça y va, hein, vraiment. Il faut sortir tout le monde. Allez, hop, toi. C'est terrible.
Mais il y en a, c'est fait avec vraiment le dernier dilemme. Est très intéressant la deuxième
bien
saison.
Bien sûr, et c'est ça qui est terrifiant avec la saison 2 de Walking Dead, c'est que malgré tout, enfin, je fonctionne avec Walking Dead comme je fonctionne avec Doctor Who. La série peut s'humilier autant qu'elle veut dans des plot twists complètement vaseux, dans des personnages qui n'ont rien à faire là. Je vais continuer à l'apprécier parce qu'à la base j'aime bien le pitch, donc ça va continuer de m'accrocher et je vais jouer à la saison 3 de Walking Dead. Il y a pas de question qui se pose. J'ai envie de savoir ce qui se passe ensuite, surtout avec la fin qui est une fin multiple.
Et qui sera resetée à son tour.
Très probablement reseté parce qu'ils auront aucune idée de ce qu'ils vont pouvoir faire. Ça va probablement être comme le DLC entre la saison 1 et la saison 2 qui ne sert quasiment à rien.
La seule incentive, le seul apport de cette saison 2, c'est de nouvelles situations. Genre, à un moment, tu butes un mec un peu par erreur et tu te rends compte que voilà, c'est le petit copain d'un autre personnage, d'un autre mec que tu rencontres plus tard et là tu fais j'ai fait une connerie et comment je vais la gérer. Là, c'est un petit peu nouveau, tu vois, c'est un sentiment nouveau. Et Walking Dead n'a plus que ça, donc il va falloir vraiment trouver des trésors d'écriture.
Mais vous pensez vraiment que sur une saison 3, il y aura une saison 3, donc ça a été annoncé sur Ferrara, la GDC, avec un chiffre, je crois, chiffré en millions de nombre d'épisodes de Walking Dead vendus séparément, ainsi qu'en pack de 5 par saison. Ça sera probablement l'année prochaine, voire même l'année d'après, enfin fin de l'année prochaine, j'imagine, que le premier épisode commencera à sortir. Est-ce que pour vous, il y a encore du potentiel pour de nouvelles situations dans The Walking Dead? Est-ce qu'ils en sont capables, simplement?
Avant de parler de ça, déjà, il y a un gros problème, c'est que il y a plusieurs fins à la saison 2.
On va le dire, ils vont trouver un truc pour que tout soit reseté, quoi. Genre,
ouais, non, mais, pour citer les Monty Python, et maintenant pour quelque chose de complètement différent.
Genre 6 mois plus tard, puis voilà, on sera tous au même point, quoi. Je veux dire, ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas partir sur, je crois qu'il y a 5 fins différentes.
5, ouais, tout à fait.
5.
Et c'est qu'une dépendance de personnages. Donc, tu modélises quelque chose.
Elles sont quand même très différentes les unes des autres, donc.
C'est pas les mêmes lieux, c'est pas les mêmes personnes.
Bah, même en termes d'implication, d'évolution. Alors oui, tu peux toujours trouver effectivement un gros cataclysme, une grosse raison qui fait que
au début de la saison 2 et ils vont le refaire, hein. Ils ont pas le choix, ils ne peuvent pas faire autre chose.
Oui, mais c'est ce qui est débile, c'est que tu construis quelque chose vraiment, alors effectivement ils ont pas le choix, c'est que tu construis quelque chose avec une pluralité, avec qui peut vraiment amener des choses différentes, et tu vas devoir tout raser en fait. Finalement, ça veut dire que cette fin aura servi à rien, clairement. La fin que tu as choisie n'aura servi à rien
dans le cas présent, c'est quand même inévitable.
Et ça, c'est quand même dramatique pour un jeu dans lequel quasiment tout est basé sur les choix. C'est quand même quand il y a des fins multiples, ça ne sert à rien. Et donc, je pense que ça va vraiment commencer à lasser les gens pour des nouvelles situations. Mmh. Il faut que les gens se creusent, parce que déjà, pour la saison 2, ça a été un petit peu compliqué de trouver des trucs. D'ailleurs, excuse-moi, juste avant, parce que tant que j'y pense, c'est que il y a une scène très étrange dans le dernier épisode de la saison 5, où tu as l'impression de revenir dans la saison 1.
De la saison 2.
J'ai dit quoi, saison 5, oui, pardon, dans le cinquième épisode de la saison 2.
Mais il y aura peut-être une saison 5 qui s'est continué de faire de l'argent, hein, je te rassure.
Et pour le coup, j'ai eu peur, je me suis dit, ça se trouve, en fait, là, ils vont nous sortir le truc, et en fait, tout ceci n'était qu'un rêve. J'y croyais vraiment l'espace d'un instant, tu vois.
J'ai cru que c'était autre chose, d'accord.
J'ai cru que c'était un rêve, et qu'en fait, tout ce qui s'était passé dans la saison 1 et saison 2, c'était en fait tout ceci n'est pas vraiment arrivé. Refaisons la saison 1.
C'est une des pires astuces de scénariste du monde, mais pour le coup, vu le contenu de la saison 2, ça aurait peut-être été pas mal, hein.
Alors, effectivement.
Alors, je peux faire l'explication de texte sur le pourquoi du comment.
Ouais.
Ça me semble plutôt évident, mais je crois que tu es censé croire que le perso qui est en train de vivre ce flashback est en train de mourir. Un dying dream, absolument, voilà.
Oui, non, mais bien sûr, t'es censé
te chier dessus pour le perso. Ça marche pas parce que tu sais bien que c'est un rêve, un flashback. C'est toujours la même chose. Hein. En fin de saison 2, tu mets un flashback sur quand c'était bien dans la saison 1 et tout. Même Game of Thrones fait ça.
Je me suis chié dessus. J'ai vraiment stressé. Oui, j'y ai cru. Après, je me dis, c'est bizarre parce que le personnage dit, j'ai l'impression d'avoir fait un mauvais rêve. Donc, je lui dis, peut-être qu'en fait, finalement, ils vont nous faire un plot twist on va réécrire la, pourquoi pas? Ça aurait pu être intéressant, mais pour le coup, effectivement, c'est comme tu disais pour la série télé, c'est que ça serait parti carrément dans un autre genre, là.
Le personnage se réveille pas pour vivre un truc meilleur. Au contraire, c'est le fameux choix final vers quoi on s'achemine, qui arrive enfin. Et là, effectivement, t'as les petits poils, t'as les frissons.
Mais ce petit flashback est quand même très intéressant parce qu'il met en parallèle deux situations différentes mais semblables, et du coup tu as une perspective un peu différente, et je ne sais pas si en tout cas ça,
rappelle-toi, les choix qu'on t'offrait dans la saison 1 étaient bien.
Non mais ce qui est très bien, c'est que
c'est rien de plus qu'un parallèle à la course, hein.
T'as fait référence à quelque chose qui s'est passé dans la saison 1, je pense que ça prend en compte ta sauvegarde de la saison 1. En tout cas, pour moi, c'était raccord avec ce qui s'est passé.
Oui, ça prend tout à fait en compte ta sauvegarde de la saison 1, mais là, on va pas développer pourquoi, mais oui, tout à fait.
Eh ben, c'est très bien, parce que du coup, ce choix-là, qui est évoqué en tout cas dans ce flashback, je le regrettais. Dès que je l'ai pris, ce choix-là, c'est vraiment le choix que j'ai regretté dans la saison 1. Et au moment où j'ai appuyé sur le bouton, j'ai dit, j'ai pas pu faire ça. Et là, du coup, on reparlait et te le redire, et tu te dis, oui, effectivement, j'aurais dû faire autre chose. Ah, et c'était vraiment très très bien amené.
L'épisode 4 et la fin de l'épisode, le 5 et surtout la fin de l'épisode 5.
La fin de l'épisode 4 est super bien trouvée. Alors là, pour une fois, ils ont eu de bonnes idées. C'est un peu cruel, évidemment, mais t'as un faux choix qui passe très bien pour une fois. Ça c'est bien foutu.
Il y a plein d'idées intelligentes, mais malheureusement, elles sont plutôt en fin de saison. Oui, vas-y.
Ça vient de m'évoquer quelque chose. Cette saison 2 manque cruellement de choix dans l'urgence.
Oui, tout à fait.
C'est ce qui marchait très bien dans la saison 1. Et ce plot twist de la saison 4, ce dernier choix, est l'un des rares trucs qui te bouge un petit peu, quoi, qui te dit, ah, c'est marrant, j'ai deux options, mais aucune d'entre elles va me faire passer pour une bonne personne, c'est incroyable.
C'est exactement ça, et c'est dans ce genre d'univers-là, c'est le genre de choses, et après, voilà, de voir simplement
encore
vivre
une fois,
la situation.
C'est une question d'idée, donc on attend que les scénaristes, alors je sais pas si c'est ceux de la saison 2 encore une fois, ou si ça va encore changer. Mais
c'est trop tôt pour le dire pour l'instant.
Mais même psychologiquement, c'était vraiment la chose la plus intéressante, c'est de savoir qu'est-ce que tu peux faire dans l'urgence, et c'est là où t'as vraiment tes instincts primaux, où tu vois la jauge en train de défiler, tu dis oh mon dieu, je dois faire un choix, j'ai à peine deux secondes. Et c'est ça. Et c'est tout ce qu'il y a de plus intéressant, en fait, dans Walking Dead, et du coup, c'est vrai que ça manquait.
Quand tu te cheats dessus, c'est bien, ça marche.
Alors. Ça, tout à fait.
Quelques réactions toujours sur Twitter, Amo, ton compère Samo, qui nous dit, qui se chitue aussi peut-être,
merde.
On sait pas, qui nous dit l'effet de surprise a quand même beaucoup joué sur le succès de Walking Dead saison 1, ça venait presque de nulle part. C'est vrai, oui. Effectivement, il y avait le côté un peu, tout le monde
dépasse
l'épisode
1, Amo.
Tout le monde avait découvert quand il était sorti finalement, toute la saison était sortie, donc tout le monde a pu se faire d'une traite. Vous pensez que ça a joué un rôle, ça? Le fait que finalement les passages un peu lents, un peu mous qu'il pouvait y avoir dans la saison 1 et qui étaient reprochés déjà par certaines personnes sur internet et dans la presse, est-ce que vous pensez que c'était le fait qu'on joue d'une traite qui est masqué un peu ça?
Je pense que c'est plutôt parce qu'on ne savait pas trop que les choix n'avaient pas vraiment d'impact. De conséquences, pardon.
Jusqu'à la fin de l'épisode 5 où on se rend compte qu'en fait, on se retrouve à peu près tous dans la même situation.
Bah, c'est ça, c'est que finalement, enfin, moi, je me souviens très bien de l'épisode 2, donc, qui se déroule dans la ferme, où je me dis, mais je ne peux pas faire ça parce qu'il va y avoir des conséquences terribles, donc il faut que j'évite ceci, cela. Et tu crois vraiment qu'il y a plusieurs façons de le jouer. Et pour éviter d'être trop spoilé sur les autres façons de jouer, j'en parlais pas avec mon meilleur ami pas trop en même temps, donc on évitait trop de se spoiler. Et finalement, une fois que tout le monde l'a su à la fin, que ça n'apportait rien, je crois qu'effectivement, ça ne peut plus fonctionner comme ça. Je pense que tout le monde s'attendait vraiment à une saison 2 avec beaucoup plus de conséquences dans ce que tu choisissais. Ça n'a pas été le cas. Ça a été pour moi, effectivement, une des déceptions majeures, même si ça fonctionne bien. Mais voilà, ça peut pas durer non plus sur 10 saisons, ça c'est certain. À mon avis, la troisième sera forcément la dernière.
D'accord. Ça devra faire en gros le rôle de la trilogie, simplement. Quelques réactions sur Twitter de nouveau, toujours au hashtag le Player Club. Skiskidev qui nous dit, qui ajoute, les comics Walking Dead sont vraiment excellents. Notre ami Forain Gandret qui nous dit, je suis seul à trouver ça inutile ou nul à chier, les fins multiples. Et on complète par notre ami Gotose qui nous dit, non mais les fins multiples c'est une vaste connerie depuis la nuit des temps. Il prend l'exemple de Deus Ex Human Revolution par exemple.
Alors, je suis carrément pas d'accord sur le principe des fins multiples, surtout dans un jeu.
Appuyer sur un bouton pour avoir une fin différente, c'est la même chose.
Ça, par contre, c'est craignos. Oui.
C'est pour une fin différente, d'accord. Mais là, dans Walking Dead, c'est pas le cas. La fin est différente selon les choix que tu fais. Et le choix que tu fais à la fin de la saison 2, j'allais encore dire saison 5, décidément, le choix que tu fais en dit beaucoup sur ta personnalité, tu vois.
T'as deux choix de suite. Tu choisis un perso, puis
exactement.
Un truc à propos de ce perso.
Exactement, donc, t'as deux choix de suite, et le deuxième choix est différent selon le personnage que tu choisis. Tu choisis vraiment entre deux figures différentes.
Non, on est encore dans la ligne grise, c'est bon.
Mais non, je sais, je surveille.
Et comment dire, enfin, c'est limite entre choisir entre ton père et ta mère, tu vois, c'est exactement ça, en fait, même, finalement.
Ouais, ça dépend beaucoup de toi. Hein.
Non mais sincèrement, moi j'ai eu la discussion avec quelqu'un qui m'a demandé, quand j'ai fini le jeu, j'ai tweeté, parce que j'allais être triste et seul et personne avec qui discuter de ce jeu. Il y a des gens qui m'ont demandé sur Twitter qu'est-ce que t'as fait comme choix. J'ai dit j'ai fait ça. Il m'a fait mais c'est, le mec m'a répondu mais c'est pas possible, comment t'as pu choisir ça? Je fais ben oui mais écoute, voilà, j'ai un raisonnement différent de toi, et je pense que c'est bien, voilà, de confronter la diversité des fins montre simplement la diversité des personnes. Alors oui, effectivement, j'ai pas besoin de savoir que les gens sont différents de moi. Le monde me le rappelle suffisamment. Mais c'est bien de voir, de dire à un pote, tiens, ouais, toi t'as choisi ça, j'aurais pas imaginé, tu vois, du coup, je vais te retirer de mes amis Facebook. Enfin, ça montre juste que tu réagis différemment des gens, et ça permet de discuter, justement, que de vivre tous la même chose. Ça permet vraiment de mettre une perspective différente. Et pour moi, je trouve ça hyper intéressant, surtout dans ce cas-là. Donc, je dis oui aux fins multiples.
Très bien. Bah, c'était un beau plaidoyer pour les fins multiples. Si vous le voulez bien, maintenant qu'on a un peu gratté la question de la première saison, de la deuxième et de l'éventualité d'une troisième, donc qui va être difficile à suivre à cause de la choix du, de la fin à choix multiple de la saison 2, et peut-être de la répétitivité déjà de la saison 2 pour le coup, on espère qu'ils auront des personnes un petit peu mieux rodées pour le scénario, peut-être qu'ils taffent sur d'autres séries d'ailleurs. Bah, une petite question quand même pour le côté un peu le jeu qui devient de plus en plus répétitif et éculé au fur et à mesure dans les situations. Est-ce que vous pensez que c'est une marque de fabrique Telltale ou est-ce que les gens peuvent quand même aller voir les autres jeux, notamment The Wolf Among Us, inspiré de du comics Fable, mais aussi la future adaptation de Game of Thrones, le futur aussi Tales of Borderlands. Est-ce que vous pensez que Telltale, c'est une bonne saison puis le reste se barre en cacahuète? Ils ont un passif quand même de jeux qui était pas top, notamment une adaptation Jurassic Park.
Je trouve pas tes deux questions super connectées, mais si je la comprends bien, ils sont on a roll quoi, ils sont sur un mouvement, parce que effectivement The Wolf Among Us, malgré cette technique à la ramasse sur 360, ça c'est terrible, ralentissement partout, c'est un shitfest, on dirait Mass Effect 2. c'est quand même un environnement très différent et les mécanismes sont pas du tout les mêmes, parce que du coup la mort n'a pas du tout le même impact. Et le genre est différent. Alors après il s'est pris un 6 sur 10 général dans la presse anglophone et française, mais c'est différent, je suis pas d'accord. C'est un genre différent, c'est un postulat différent et les enjeux sont différents et ça marche quand même, donc effectivement il y a de quoi faire et j'ai confiance en Telltale dans cette boîte en tant que développeur. Oui,
c'était ma question
épisodique.
Pour repréciser ma question, pour le coup c'était la question de poser devant toute la production, devant tous les contrats qu'ils signent, devant tout ce qu'ils font, est-ce qu'ils peuvent quand même encore toujours produire de la qualité,
même si je peux pas m'empêcher de signaler que à l'épisode 1 de la saison 2 j'ai eu un bug complètement surréaliste avec un perso qui avait l'air pendu au milieu d'une salle, etc. Genre une apparition, tu entres quelque part et tu as quelqu'un qui est là, il n'a pas de tête, c'est extrêmement flippant, je me suis fait dessus encore une fois, mais cette fois c'était pour les mauvaises raisons.
C'était un jumpscare par le code, c'était vraiment très
étrange, hein. ça n'arrive pas toujours ça.
Ouais. Moi je suis pas d'accord avec toi en tout cas, mon petit concombre, mais alors, juste avant j'ai vu un tweet passer qui était vraiment très très drôle, Amo qui nous disait: est-ce que du coup notre save de Walking Dead saison 2 sera compatible à Game of Thrones? Je trouve ça très très bien, mais je trouve que c'est un petit peu relou de voir qu'ils ont trouvé un filon et qu'ils essaient de le décliner simplement sur des marques.
Bah, ça va se voir très vite, hein.
J'ai peur que ça se voit très vite.
C'est déjà le cas d'ailleurs.
Et qu'au-delà de l'ambiance, si vraiment ils travaillent pas l'ambiance, même s'il est travaillé d'ailleurs, je pense que les gens
travaillé dans les deux séries, hein, pour le moment.
En auront très très vite marre. Oui, mais j'ai peur que ça s'écule. Enfin, déjà compare l'atmosphère de Walking Dead saison 1 et Walking Dead saison 2, tu sens déjà quand même la marche descendante, quoi.
T'en as une un peu couleur brune et l'autre un peu plus bleu, un peu plus nuité. Je sais pas.
mais enfin, j'ai vraiment des doutes quant à la suite et j'ai peur qu'ils arrivent pas à se renouveler tout simplement. Et surtout, c'est qu'ils ont tellement de projets sur le dos. Et ils ont pas non plus 150 000 personnes. J'ai peur que ce soit trop lourd et que du coup, au niveau de la qualité, ça se ressente aussi quand même. Ils ont eu beaucoup de mal à sortir déjà en parallèle Wolf Among Us et Walking Dead saison 2.
C'est peut-être donc, ça finalement le phénomène. Vous parliez du staff de la saison 2 qui est pas du tout le même que celui de la saison 1. Peut-être qu'ils ont une espèce d'équipe d'agence touristique vraiment très qualifiée et qu'au final, une fois que la première saison a bien marché et que les gens sont en confiance, ils refilent ça à quelques tâcherons et ils continuent et une nouvelle licence à côté. C'est peut-être un peu, il y a peut-être un peu de vrai là-dedans, même si j'exagère évidemment et on sait pas tout ce qui se passe à l'intérieur, mais
tu n'exagères pas forcément. Je ne sais pas comment il fonctionne, mais c'est pas forcément dans l'exagération, c'est peut-être le cas, on ne sait pas, mais oui, enfin il y a tellement des temps morts et des chutes d'occasion de rythme dans la saison 2 que tu te dis là il y a eu un souci, cet épisode-là ils l'ont sorti à la va-vite quand même comparé aux autres.
Parfois simplement d'occasion manquée d'ailleurs, mais
tout à fait.
Mais même si on prend la saison 2 dans sa globalité, il y a certains choix qui sont très très intelligents. Mais enfin bref, ça c'est une autre question. De tweet, Clémence Postis qui nous dit The Wolf Among Us est bon mais pauvre en implication émotionnelle qui fait le goût des jeux Telltale. Et Rémi D nous dit en jeu Telltale antérieur à The Walking Dead, il y avait Retour vers le futur qui était pas trop mal quand même. J'en ai entendu du bon et du moins bon, hein. Notamment je crois que Canard PC l'avait pas forcément saqué, mais en tout cas avait dit toujours la même chose, c'est très moyen, etc., etc., à la sortie des différents épisodes. Et c'était plus ou moins la même chose d'ailleurs quand ils avaient récupéré une vraie licence de point and click qui était Monkey Island pour faire une petite série épisodique il y a un petit moment.
Pas joué, aucune idée, il paraît que c'est pas bien.
Il paraît que c'est pas bien, effectivement, donc c'est un peu dommage. Dernier point que je voulais évoquer avec vous ce soir, parce que vous êtes quand même si, on est critiques sur la saison 2 de Walking Dead, on est quand même des gens qui apprécient la licence, qui avons pas mal aimé la saison 1.
Ouais,
c'est
certain.
Quand même, je pense qu'on pense tous à la saison 3.
Oui, c'est quasiment acquis d'avance, même si on sait très bien que ça va.
On sait qu'on va se faire avoir.
Voilà, c'est ça. Enfin, c'est un peu ça, tu vois. Mais y a le miracle sera peut-être là, hein, mais ne comptez pas dessus, quoi, tout simplement.
Et donc, notre ami Fasquille des Monts du Midi, qui fait la technique des Monts du Midi,
le courrier du lecteur,
qui fait aussi Morceau Choisi. Ben voilà, on avait
sur Radio Kawa,
sur RadioKawa.com, exactement, Morceau Choisi, mais aussi les Démons du Midi sur RadioJV.com. Évidemment, on se manque pas de vous le dire. Évidemment, c'est de la promo gratuite. Merci nous. Donc oui, notre ami Fasquille m'a fait un fantastique truc en 5 points. On dirait du fact-checking. On se dirait sur des sites d'infos. C'est fantastique. Par rapport vraiment à The Walking Dead en général, et il défend l'argument comme quoi The Walking Dead, même la saison 1, c'est vraiment pas bien. Il prend le premier argument, waouh, c'est super bien écrit, et il commence ainsi, non mille fois non, c'est supervisé par le mec qui a écrit Duke Nukem Forever, ça devait être un indice, c'est du tire-larme facile, franchement pas très inspiré, et à milieu de la qualité d'écriture d'un Bioshock Infinite par exemple, qu'on aime ou pas, on peut difficilement débattre de la plume de Ken Levin. C'est simpliste et blindé de clichés d'effets de manche.
C'est pas simple parce que quand même The Walking Dead c'est une expérience de jeu qui est beaucoup plus immédiate, alors que Bioshock Infinite tout se base sur la suspension consentie d'incrédulité. Voilà Samuel Coleridge, mesdames, messieurs. Enfin c'est juste une construction d'univers qui est beaucoup plus poussée avec un vrai décor, une vraie musique différente. C'est quand même un cadre beaucoup plus différent, un univers original. C'est pas la même chose.
Pourtant, c'est pas comparable. T'as aussi une suspension quand même dans Walking Dead. N'exagérons rien tout de même.
Bah bien sûr, mais elle est livrée toute faite quoi. C'est The Walking Dead, c'est du zombie. Enfin c'est.
Qu'est-ce que tu frais.
Tout est prémâché, quoi, tout simplement.
Mais il a pas forcément tort. Ça, c'est sûr que le jeu ne crée pas un univers. Enfin, l'univers n'est pas aussi dense et plein de références et d'intelligence qu'un Bioshock Infinite. Là-dessus, c'est une certitude. Il y a aussi un autre problème, si tant est qu'on peut parler d'un problème, c'est que le jeu mise beaucoup sur l'émotion. Et l'émotion, ce n'est pas une construction, ça c'est sûr. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont est provoquée l'émotion. C'est pour ça que moi, j'ai déjà dit 100 fois, c'est qu'on ne parle jamais d'émotion et de passion quand on fait une critique de jeu vidéo. On doit s'intéresser aux mécaniques qui suscitent cette émotion. Et la mécanique, comme tu l'as dit justement, concombre dans The Walking Dead, c'est l'immédiateté. C'est l'immédiateté. Et effectivement, c'est le plus facile. On va te fournir une émotion tout de suite et tu dois faire un choix tout de suite qui va avoir des conséquences immédiates. Donc, t'as pas le temps, si tu veux, de t'imprégner véritablement de certaines choses. Après, je trouve que dans la construction, les personnages sont quand même très intéressants. Alors oui, l'univers n'est pas aussi développé parce que, un monde post-apocalyptique, c'est pas non plus la chose la plus dure à imaginer. Mais dans la conception des personnages, il y a eu quand même un travail intéressant, même si effectivement ce sont des personnages à la limite du caricatural. Certains sont quand même assez fouillés psychologiquement, mais voilà, on n'est clairement pas dans la complexité d'un Bioshock. Là-dessus, nous sommes d'accord.
On avance au deuxième point de Fasquille. Il y a plein de choix possibles et ils ont une importance sur le déroulement du scénario. Alors on a déjà un peu évoqué.
Ça c'est pas vrai, on le sait. Bon.
Mais voilà, là il est assez, il est justement dur sur la question. Il y a une illusion du choix.
Quand tu penses sur le sujet, tu te rends compte à quel point c'est pas vrai, c'est terrible.
Mais sur l'illusion du choix, malgré tout, est-ce que vous avez quand même apprécié le fait de vous raconter votre propre histoire, même si vous saviez pas que ça donnerait des résultats forcément totalement différents? Que moi personnellement, oui. Enfin, je me fiche un petit peu au final qu'on ait un véritable choix, pour peu que je puisse me figurer un peu, ben oui, mon personnage, j'ai choisi de lui faire ça, même si ça n'a pas de grande influence.
Et t'as pas d'effet de comparaison, en fait. Le seul truc que t'as pour comparer, c'est les fameuses petites statistiques qui sont délicieuses quand, pour une fois, t'es dans une ultra minorité, ce qui m'est arrivé une seule fois en 10 épisodes. Alors que tu fais ton histoire.
Les statistiques en fin d'épisode qui sont « Vous êtes tous des êtres humains dégoûtants ».
C'est ça.
Pas mais forcément.
Quand tu fais ta propre histoire, pour toi, elle est canonique, quoi. Elle est gravée dans le marbre, c'est la tienne. Donc, tu vas pas comparer. Il y a pas, je pense, je trouve ça un peu déplacé comme argument.
ALS, sur les choix et les statistiques?
Oui, alors non, ce que je voulais dire, c'est surtout c'est que le choix peut marcher quand même. Je dois dire que sur le dernier épisode de la saison 2, j'allais encore dire 5 décidément, il y a un moment, je me suis arrêté de jouer, je me suis dit, oh non, j'ai pas pu faire ce choix-là avec cette conséquence-là, je suis allé vérifier concernant la mort d'un personnage, je fais, ah non merde, en fait, on peut rien faire à cet endroit-là. Donc j'étais un petit peu déçu encore une fois. J'étais pas prêt à relancer ma save pour essayer de le sauver, mais j'aurais voulu savoir si ça avait été possible malgré tout de faire autrement. Et finalement non. Donc l'illusion peut encore fonctionner sur certains points, ce serait hypocrite de le dire vu que ça a fonctionné encore sur moi, mais c'est vrai que le manque d'implication scénaristique, c'est un très très gros écueil pour moi, alors que ce serait une chose vraiment merveilleuse si ça fonctionnait en fait, mais vraiment merveilleuse dans le sens merveilleux, enfin je veux dire je serais
si vraiment wow, l'épisode 5, il y aurait 50 versions comme Alpha Protocol, mesdames, messieurs, jouez Alpha Protocol.
Alors c'est ce serait compliqué qu'il y ait effectivement beaucoup de versions, mais qui allait, on demande quand même 2-3 possibilités un peu différentes. C'est pas mal.
Shadow the Hedgehog et ses 16 fins différentes, berg. Un autre point sur lequel on va avancer assez vite, c'est...
Merci Sega.
Bien sûr, oh là là, quelle horreur. Mais je crois en plus le créateur de Sonic avait bossé sur ce jeu-là, c'est immonde. Le jeu demande une bonne dose de réflexion. Il nous dit en comparaison des légendes du point and click, c'est ridicule. Là, encore une fois, il y a pas grand chose à...
La logique maboule des point and click est complètement absente. Les puzzles de The Walking Dead sont tout à fait au premier degré. Donc éloigné de cette logique, donc ça c'est complètement irréfutable hein, comme argument, c'est certain.
Même si pour le coup, ça aurait pu être une bonne première pierre, ça aurait pu être un bon départ vers effectivement un retour du point and click et habituer les gens à sélectionner des objets, à gérer un inventaire, etc., etc. Malheureusement, on se rend vite compte justement dans la saison 2 que c'est un aspect qui est gommé, que l'inventaire devient, enfin c'est encore plus simplifié. Enfin c'est.
Je rappelle les puzzles de The Walking Dead, hein, c'est donc ouvrir un frigo, démarrer une bagnole. Et éventuellement se cacher en rythme des zombies pour aller chercher un truc, donc vraiment ça va chercher bien loin.
Et puis surtout voir ou toucher des objets, on peut voir des objets et le personnage te dit
sinon l'écran devient tout rouge, ouh là là,
il regarde un objet, il fait c'est une théière.
Oui, c'est des interactions complètement inutiles.
La théière s'en souvient exactement. Et les deux derniers points qui sont évoqués par Fastkill, la réalisation technique est top. Je sais pas qui a osé dire ça, mais effectivement, il y a eu des gros problèmes dans la saison 1 quand ils étaient sortis. En tout cas, au moment où la saison 1 était terminée, les bugs étaient corrigés, mais à la sortie des épisodes, il y avait des graves problèmes de transfert de sauvegarde. Pour la saison 2, on a évoqué ce glitch que j'ai eu aussi d'ailleurs. Mon cher,
je suis rassuré.
Donc du personnage pendu, qui n'est pas un personnage pendu, mais qui est en fait simplement un prop qui est mal placé par le jeu. Je l'ai aussi eu sur PC. Tu as joué sur 3.6, c'est ça?
Sur 360, absolument.
Eh ben, j'ai joué sur PC.
Donc il est partout, hein, du coup.
Il est partout. Il est dans toutes les versions du jeu. Ils l'ont probablement corrigé. Donc voilà. Ça, malheureusement, c'est malheureux, mais le rythme de travail fait qu'apparemment, ils veulent pas sortir quelque chose d'excessivement polishé, les premières fois.
Bah, alors, je tiens à dire, il y avait un problème beaucoup plus gênant sur la saison 2 sur Xbox.
Oh oui!
Le season pass.
D'accord, je
qui ne fonctionnait pas. Les acheteurs du season pass n'ont pas pu télécharger ou alors ont dû payer le deuxième épisode pendant très longtemps. Ça a duré quand même 4 ou 5 jours, si je dis pas de bêtises.
C'est le tout premier season pass de ma vie. C'était The Walking Dead saison 2. Et ça a toujours marché, sauf qu'il fallait attendre un jour à chaque fois par rapport aux autres parce que le téléchargement était là, mais tu pouvais pas le faire. C'était très fatigant. Je n'ai pas eu ce problème.
C'est pas possible parce que tout le monde est dans le même cas normalement. T'as pas dû l'avoir le jour même alors.
J'ai eu de la chance.
T'as pas dû l'avoir le jour même. Alors en fait, ce qui se passait, c'est que tu devais racheter l'épisode. Alors après, Microsoft, très gentil, si tu achetais le truc, Microsoft te... comment dire, il te remboursait, enfin il te versait des sous sur ton compte sur ton compte live, mais c'était très très chiant pour moi parce que je voyais tout le monde y jouer et moi je pouvais pas parce que j'allais pas dire je vais pas remettre 5€ dans un truc que j'ai déjà payé en entier quoi. Donc heureusement que Microsoft a été réactif le lendemain, mais sur le coup, c'était quand même un petit peu relou.
C'était gênant, mais voilà, il y avait des petits soucis. Il y avait aussi un personnage qui peut techniquement mourir dans l'épisode 4, sauf erreur, qui n'est pas censé du tout mourir dans l'épisode 4 ou dans l'épisode 5, je ne sais plus maintenant. Dans l'épisode 4, il me semble. Mais enfin bref, je sais plus. C'est dans un des épisodes de fin. De toute façon, effectivement, il y a des soucis techniques. Le dernier point qu'il évoquait, c'était le jeu utilise des ressorts dramatiques subtils, parce que souvent c'est caricatural, selon lui. Souvent c'est des jumpscares et simplement des choses assez prévisibles pour lui. C'est son opinion après, mais effectivement, c'est quelque chose qui s'entend assez régulièrement. Une réaction rapide là-dessus, si vous en avez une.
Bah, bah aucune, c'est vrai, hein, c'est des mécanismes super éculés qui sont parfois avec des petites subversions parfois, mais bon, tel, il faut arrêter les fausses QTE, c'est-à-dire j'en ai marre de massacrer mon bouton 1 en sachant très bien que ça ne servira à rien, s'il vous
d'accord.
plaît.
D'accord.
Ah, bah, pour l'application, c'est pas mal, je trouve, les QTE, ça peut être intéressant.
Il y en a une dans The Wolf Among Us qui est insupportable.
Les faux QTE sont marrants la première fois, mais effectivement, au bout du cinquième, ça devient redondant. Merci à vous deux pour cette rubrique consacrée à The Walking Dead et d'avoir été là pendant ce premier numéro du Player Club. Merci Concombre.
Eh bien, merci à vous, merci à toi, heureux encore une fois d'avoir étrenné une émission.
Merci aussi à notre ami Alex le Serveur.
Merci à toi pour l'invitation.
Donc Alex le Serveur, on te retrouve sur Radio Kawa et on te lit sur Gamekult.
Exactement, d'ailleurs demain 21h, enfin un tout petit peu avant 21h, ce sera ta gueule.
Oh fantastique. Et directement, ça n'a rien à voir en fait, mais je voulais faire une transition avec Concombre, ça ne marche pas. Concombre, toi on se retrouve dans LOL Japon et on te lit aussi sur l'usine à problème, usineaproblème.fr.
Absolument, ou sur @ la débauche pour toujours plus d'immédiateté ou
oh là là.
Folie, les tweets sont immédiats.
Le Player Club est une émission produite et réalisée par Radio JV, radiojv.com, pour télécharger, podcaster l'émission, que vous retrouverez d'ici quelques heures en téléchargement. Ça devrait être le cas dans la soirée si tout va bien. Merci d'avoir suivi ce premier numéro, merci à vous de l'avoir écouté. Donc voilà, radiojv.com pour vous abonner en podcast, téléchargement, récupérer l'émission si vous l'avez pris en cours. Et eux, ils vont prendre à l'heure, c'est nos amis de Pass le Stick. Bonsoir.
Bonsoir Rix, on est là.
Salut Alvinou.
Comment vous allez ?
Eh ben écoute, on va très 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 bien, on vous a écouté, on a trouvé ça pas mal du tout, bravo bravo.
Relation de bon voisinage, de quoi vous allez parler ce soir ?
On va parler de plein de choses, on va faire le petit pré-générique d'ici quelques secondes, on va te remercier Inks en tout cas pour ce premier du Premier Club.
Yes.
Mille bravo et à la semaine prochaine, lundi 21h.
Hey, ciao.
Ciao.